Bonjour à toutes, bonjour à tous. À l'occasion des 10 ans du magazine Happiness, nous avons le plaisir de réunir 10 de nos auteurs fétiches qui nous accompagnent depuis ces 10 ans, dont le grand Serge Marquis, auteur d'un certain nombre de livres que tout le monde connaît bien, dont « On est foutu, on pense trop », Le jour où je me suis aimée pour de vrai, et je vous le cache pas, celui-là, il est un de mes coups de cœur énormes. Ensuite, il y a eu Je, ensuite il y a eu la nouvelle version de Pensouillard, et plus récemment, Ça chauffe là-haut, qui est un livre à destination des parents. Mais là, présentement, Serge va nous parler du thème qu'il a choisi pour ce petit entretien, qui est le thème ralentir. Bonsoir Serge.
Bonsoir, chère Nathalie. Merci de m'accueillir.
C'est toujours un plaisir. Hein.
Vraiment.
Tu vas nous transporter en plus au Canada avec ton accent et on va être voilà, au milieu des forêts canadiennes avec le bruit de la neige.
Ah, oui, il y a neigé un peu au cours des derniers jours, mais là, déjà tout est fondu. Il y a encore des arbres pleins de feuilles, toutes colorées. C'est assez fascinant ce temps-ci de l'année de voir ça. C'est magnifique.
C'est le temps où la nature ralentit, du coup.
Voilà. C'est le temps où la nature ralentit. Et c'est un thème qui, le mot ralentir, c'est un mot qui, j'ai envie de dire, est précieux pour moi depuis plusieurs décennies. Parce que, pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que j'ai soigné des personnes. À la base, ma vie a été consacrée aux soins. On ne peut pas éviter d'utiliser ce mot-là quand on a été formé en médecine. Et après, il y a eu les conférences, les livres, et un jour, on m'a dit « Vous ne faites plus de médecine ». Et quelqu'un qui était à côté de la personne qui m'a dit ça a dit « Ben, qu'est-ce que tu penses qu'il fait ?» Donc, à travers les conférences, à travers les livres, c'est encore destiné, j'ai envie de dire, à contribuer en toute humilité à soulager la souffrance humaine, donc à soigner. Et quand on veut faire ça dans sa vie, on peut pas. C'est inévitable. On finit par rencontrer le mot ralentir. On peut pas faire autrement. J'irais même jusqu'à dire aller encore plus loin que ralentir, arrêter. J'ai souvent dit au cours des dernières années que le mot s'arrêter dans ma tête était devenu un mot révolutionnaire à notre époque et que je considérais que ça prenait du courage pour s'arrêter. Et quand je parle de s'arrêter, bien sûr, on peut s'arrêter une journée, un week-end, on peut s'arrêter une semaine, un mois, tout ça, pour faire le point, aller en retraite. Mais c'est aussi important de considérer à quel point s'arrêter quelques secondes, pour observer. Ce sont deux mots reliés. Il est impossible d'observer si on ne s'arrête pas. Et observer, c'est un mot fondamental lié à la connaissance de soi et à tout ce qui est important au cours d'une existence. Il est impossible de profiter de sa vie. Il est impossible de développer son potentiel. Il est impossible de se relier aux personnes qui nous entourent, de connecter s'il n'y a pas ralentissement et s'il n'y a pas temps d'arrêt. Comment peut-on s'émerveiller si on ne ralentit pas? Ça ne peut pas se faire à toute vitesse, s'émerveiller. Ça ne peut pas se faire à toute vitesse, aimer. Impossible. Tenir la main de quelqu'un, connecter avec l'autre. Comment est-ce possible s'il n'y a pas un ralentissement de quelques secondes pour entrer dans la présence? C'est impossible. Et le cœur même de ce qui fait que nos existences, entre guillemets, valent la peine d'être vécues, c'est le fait qu'il y a pu y avoir ce passage de l'hyperactivité du mental à la présence. Et c'est dans cette présence que tout ce qui est important, précieux, tout ce qui fait qu'on sait que nous sommes des êtres de connexion, qui fait qu'on puisse créer, qu'on puisse, j'ai envie de dire, transmettre, apprendre, tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, requiert qu'il y ait eu ce passage de l'hyperactivité à la présence, donc ce ralentissement et ce temps d'arrêt. C'est fondamental. Je vais même jusqu'à dire aujourd'hui que à la base des solutions, il y en a plus qu'une, à tous les problèmes qu'on voit apparaître chaque jour sur cette planète, il y a un ralentissement nécessaire. Il y a un temps d'arrêt nécessaire. Comment peut-on entrer dans le dialogue? Comment peut-on entrer dans l'écoute s'il n'y a pas un ralentissement qui permet d'observer les jugements qui apparaissent dans notre tête au sujet de l'autre, au sujet de soi-même? Comment peut-on découvrir qu'il y a un attachement à des fausses identités qu'on défend comme si notre survie en dépendait si on ne s'est pas arrêté pour observer à quel point il y a un lien très fort entre l'attachement à ces fausses identités et le fait qu'on les défende là, en allant jusqu'à, j'ai envie de dire au départ, ça peut se faire verbalement, mais à la lutte, au combat, etc., etc. Entre deux êtres humains, au niveau des relations qu'on a avec, au niveau des couples, au niveau des voisins, au niveau des collègues de travail, etc., etc. Et évidemment, plus largement au niveau des nations. Donc, le ralentissement pour apaiser la souffrance humaine, pour permettre aussi de savourer complètement le spectacle de la vie est fondamental et urgent. Alors, voilà pourquoi... C'est simple. C'est super simple. C'est difficile, j'insiste toujours sur ces deux mots-là, c'est difficile parce que ça va tellement vite dans la tête, c'est difficile de se rendre compte que ça va vite dans la tête. Mais au bout du compte, c'est simple. Parce que si on s'entraîne, on finit par être capable de se rendre compte qu'il y a cette agitation-là, les jugements sur l'autre, les jugements sur soi. Bon, d'ailleurs, pour ça que j'ai écrit un livre destiné aux parents en me disant, bon, si les parents le font pour eux-mêmes, ils vont pouvoir permettre à leurs enfants d'apprendre ça tôt dans leur vie. Et les enfants vont apprendre eux-mêmes à ralentir cette espèce d'agitation mentale et très tôt à savourer davantage le spectacle de la vie. Ce qu'ils font très tôt dans la vie. Ils font spontanément. Puis tout à coup apparaissent ces jugements sur eux-mêmes. Je suis nul. Je suis laide. Je suis trop gros. Je suis trop petit. Etc., etc. Et ça continue comme ça toute la vie. Ça devient un jour, je suis trop vieux, je suis trop vieille, on ne m'appréciera plus. Et évidemment, c'est les jugements sur l'autre aussi qui finissent par prendre toute cette place. Et comment peut-on apaiser ça s'il n'y a pas ce ralentissement? C'est impossible.
J'ai rencontré hier une jeune femme qui est pas vieille, elle a moins de 40 ans, qui me disait que à l'adolescence et même un peu avant, elle s'était rendue compte que plus elle apprenait des choses, plus elle emmagasinait de connaissances classiques et plus elle fermait des robinets à l'intérieur d'elle. Ça m'a marqué cette expression. Elle a eu cette conscience très jeune. Elle l'a toujours maintenant. Simplement, elle ne sait plus comment réouvrir les robinets. Et effectivement, on a parlé de présence, on a parlé de s'arrêter, mais quand tu parlais tout à l'heure de pas faire les choses trop vite, c'est exactement ce qui se passe quand on mange trop vite. Notre corps n'est pas capable d'assimiler la nourriture qu'on mange trop vite. Il n'est pas capable d'en faire, d'utiliser tout le potentiel de ce qu'on va ingérer pour que notre corps en profite. C'est exactement la même chose. Donc, si ça se passe comme ça, dans cette activité toute simple qu'est la nourriture, on peut imaginer tout le reste qui rentre et qui sort de nous, si ça va trop vite, ça finit par devenir du poison, en fait.
Et avant même, deux choses importantes. Apprendre, tu as mentionné le mot, comment peut-on apprendre à toute vitesse? On peut pas, c'est impossible pour intégrer, il faut encore être présent pour pouvoir bien lire quelque chose ou écouter un prof en classe, je raconte souvent ça à des jeunes, écouter une autre personne qui est en train de dire quelque chose dont on n'avait jamais entendu parler et qui nous permet tout à coup de dire « Oh, j'avais jamais vu ça comme ça. Wow, un changement vient de s'opérer en nous. » Donc, un, comment peut-on apprendre s'il n'y a pas ce ralentissement, s'il n'y a pas cette présence? Et deuxièmement, avant même que ça aille dans le tube digestif, savourer, simplement savourer. Il se passe déjà plein de choses au niveau de la bouche, déjà au niveau même de la digestion. Dans la bouche, il y a des choses qui s'opèrent si on y va lentement. Et au-delà de ce qui se passe au niveau de la digestion, il y a évidemment toute la présence aux saveurs, aux parfums, etc. Et ça, ça ne peut pas se faire à toute vitesse. Si je mange à toute vitesse avec cette agitation mentale, je passe à côté de ça. Alors, au cœur même de l'apaisement de cette agitation qui est liée à des jugements sur soi, sur l'autre, ou des regrets, j'insiste là-dessus parce que l'attention va aussi dans le passé à travers des regrets, des remords, du mépris, de la rancœur, etc., qui font souffrir, de la jalousie, etc., etc., ou dans l'avenir avec de l'anxiété qui apparaît parce qu'on crée des scénarios de toutes sortes qui n'ont rien à voir avec ce qui risque d'arriver. Le ralentissement est fondamental pour observer ça, apaiser ça, pour pouvoir être là complètement et pouvoir dire, oh, wow, observer cette vie qui circule en nous, qui mène d'ailleurs à une meilleure digestion en passant, observer cette vie qui circule en nous à partir du moment où on savoure, etc., on apprécie la qualité des aliments, et cette vie qui, dont on fait partie, Parce que s'il n'y a pas ce ralentissement-là, s'il n'y a pas ce qui conduit au temps d'arrêt, il n'y aura pas la prise de conscience du fait, j'en ai parlé au début, mais j'y reviens, que nous sommes des êtres de relation, des êtres de connexion avec tout ce qui nous entoure. Ce matin même, ici dans le jardin, il y a des arbres dont une dame qui travaille pour la ville est venue s'occuper pour les préparer pour l'hiver. Ils étaient, depuis qu'ils ont été plantés, entourés de clôtures, bon, etc. Alors, je suis allé la voir. Et il y avait eu, parce que je l'avais vu de dos, elle était habillée avec des vêtements chauds. Et de dos, je pensais que c'était un homme. Alors, et j'avais l'impression qu'elle était assise dans un camion, etc. J'avais l'impression qu'il y avait des jugements à son sujet dans ma tête. Et là, je suis allé la voir parce que je voulais lui parler d'un arbre qui était malade. Et elle se retourne, il y a cette femme qui est là, qui tout à coup commence à me parler de sa passion pour les arbres. C'était fascinant, absolument fascinant. Les connexions à travers les racines, bon, chose qu'on connaît depuis quelques années, mais dont elle parlait avec beaucoup d'émerveillement, je dirais. Et il y a une connexion entre elle et moi. Et là, j'ai réalisé à quel point les jugements du départ m'auraient privé de cette connexion si j'étais pas allé la voir dans un moment de ralentissement, 2 minutes, 3 minutes, qui ont permis simplement d'être reliés, d'être ce que nous sommes profondément quand les jugements sont apaisés. Alors, tu sais, pour moi, là, il y a cette révolution du ralentissement. Je l'ai souvent appelé dans mes bouquins la seconde révolutionnaire. Quel est le temps d'arrêt qui permet d'entrer dans la présence pour tout ce qui est important au cours d'une existence. Même la rencontre avec tout ce qui en nous se transforme, devient autre chose. Pouvoir observer ça sans entrer dans la peur, l'espèce de peur de devenir tout à coup autre chose que ce à quoi on s'est attaché de soi-même, une image, une apparence, etc. Et quand on y a ce ralentissement, il y a cette observation, on se rend compte qu'il y a eu attachement à une image qu'on avait de soi-même et peut tout à coup y avoir une espèce de déconnexion avec cette image-là pour entrer dans la présence encore une fois. Et dans tout ce qu'on a appelé, ce qu'on a essayé d'appeler, j'ai un petit peu discuté avec cette expression-là, s'aimer soi-même. Qui aime qui? Puis au fond, quand il y a ce ralentissement, ce temps d'arrêt, il y a tout à coup cette présence qui permet d'émerger cette capacité extraordinaire que nous avons d'être, de se sentir reliés, connectés. Et là, l'expression n'a même plus besoin d'émerger parce que, c'est-à-dire, n'a plus besoin d'être là. L'amour de soi devient une évidence. Au sens où...
Oui, mais et tu te poses même pas la question de te dire est-ce que je m'aime parce que tu te sens. Parce que quand on dit s'aimer soi-même, en fait, c'est comme si soi-même regardait. Donc, tu fabriques toi-même les images et dis, mais qu'est-ce qu'il y a aimé chez moi? J'ai les yeux trop petits, les oreilles décollées, les cheveux plats. En fait, on ne parle pas de ça.
Non.
Il ne s'agit pas de sortir de soi pour se regarder en se disant « Waouh, tu es magnifique ouais, !» C'est non. autre chose.
Oui.
Tu te sens et du coup, tu rayonnes. Mais tu ne t'en rends même pas compte. Tu émets quelque chose et tu ne te demandes même plus si tu t'aimes toi-même. Enfin, ça n'a pas de sens.
La question ne se pose plus.
Non.
Parce qu'il y a présence.
Ouais.
À partir du moment où il y a présence, tout le potentiel est là. Tout le potentiel, la capacité de s'émerveiller, d'apprendre, de transmettre, de savourer, de créer, d'aimer, tout est là. Tout est là. Alors, la question ne se pose même plus parce que c'est vécu, c'est intégré, c'est incarné. J'ai envie de dire à ce moment-là, parce qu'il y a des gens que je voyais en consultation qui me disaient « Personne ne s'intéresse à moi. » On arrivait dans mon bureau avec cette phrase. Et j'avais appris d'un ami, je le nomme, il s'appelle Jules Bureau, malheureusement décédé aujourd'hui, qui disait « Intéressez-vous. Intéressez-vous et vous allez devenir intéressant. » Mais vous n'aurez même pas besoin de devenir intéressant. Ça va apparaître. Et intéressez-vous, comment s'intéresser? Il appelait ça le pouvoir de l'intérêt. Comment s'intéresser s'il n'y a pas eu ralentissement? Encore une fois. Comment s'intéresser si on n'est pas entré dans la présence? Et à ce moment-là, le besoin d'être intéressant qui vient d'ailleurs de notre enfance, et ça c'est tellement important parce que c'est un... Quand on était enfant, on associait être intéressant à recevoir de l'attention et recevoir de l'attention à survivre. C'est une force énorme. Quand on est enfant, on cherche par tous les moyens à découvrir ce qui va nous permettre d'être intéressant parce qu'on pense que si on ne l'est pas, on ne survivra pas.
Et peut-être aussi qu'on pense, qu'on sent intuitivement que l'adulte qui est en face de nous n'est pas présent et que ça fabrique une insécurité. Ça, je l'avais vu quand ma fille était bébé et que je la tenais dans les bras. Quand j'étais vraiment là, elle était bien. Dès que j'étais là sans être là, elle se mettait à couiner.
Exactement.
Et là, je me suis dit, mais c'est bizarre, pourtant je suis là. Mais non, t'es pas vraiment là. Non, et quand ça. Le soir, je l'endormais, je lui posais la main sur la tête, etc. Je lui faisais des petits trucs énergétiques, tout ça. Eh bien, si moi, je n'étais pas là, si moi, je n'avais pas ralenti, ça exact. Ne marchait pas.
Exact.
Et dès que moi, je ralentissais, plouf, elle sentait que j'étais là et là, elle se laissait aller. Exactement. Et ça, effectivement, cette qualité de présence, on en parle depuis pas si longtemps que ça, finalement. Non. Et même en tant que parent, tu as l'impression de donner de l'attention à tes enfants parce que tu prépares à manger, à machin. Mais en fait, tu es tout le temps dans l'hyperactivité.
Exactement.
Et ton enfant, il veut juste sentir que tu es là.
Ouais,
là. Même s'il n'y a rien dans l'assiette, tu es juste là.
Ouais.
Et du coup, il va chercher. Et cette attention, il va se construire l'image qu'elle arrive pour des fausses bonnes raisons, une bonne note, un je sais pas quoi. Et tu as tout un système qui se construit comme ça, qui vient de ce décalage d'interaction parce que l'enfant, il a besoin de sentir cet amour-là, là, là.
Exact. Et parfois, c'est possible même de dire que on a quelque chose à faire, là, puis de dire, écoute, Kaf, dans 3 minutes, toute mon attention va être disponible complètement pour toi. Donc, de pouvoir dire, je termine ceci et après, je suis complètement là. Donc, et ça, ou plutôt que de faire croire qu'on y est alors qu'on n'y est pas. Et ce que tu dis, c'est fondamental parce que ça dure toute la vie après.
Oui.
Et plein de gens, du reste de leur existence, même à la toute fin parfois, cherchent encore la même attention sans s'en rendre compte. On voit ça dans des unités de soins de fin de vie, alors que les gens vont disparaître. Il y a encore le vieux mécanisme qui est là pour assurer la survie liée au fait de recevoir de l'attention en étant encore parfaite, extraordinaire, etc. Et le ralentissement qui conduit à la seconde révolutionnaire, au temps d'arrêt révolutionnaire, permet tout à coup de faire « qu'est-ce qui se passe ici? Là? Qu'est-ce que je suis encore en train de faire? » Et d'apaiser ça en ramenant l'attention sur quelque chose de concret, très concret. Le corps, la respiration, le souffle, des choses toutes simples. Pardonne-moi. Observer les... Moi, ça m'arrive de dire, tiens, il y a encore ces jugements-là. Les observer. Il y a encore ces jugements qui, à mon propre sujet, il y a encore ces jugements sur les autres. Et du seul fait les observer, là, c'est comme si tout à coup, ça faisait en sorte qu'ils se dissolvent. Il y a comme une espèce de dissolution des jugements parce qu'ils sont observés. Et là, la présence émerge. Mais il a fallu qu'il y ait avant ce temps d'arrêt, ce ralentissement qui conduit au mouvement de l'attention vers quelque chose de concret pour que la présence émerge et qu'enfin, on soit totalement présent, connecté, capable de s'émerveiller, savourer. Je reviens toujours là-dessus, mais c'est important parce que c'est ce qui est fondamental, qui fait que notre vie... dans toute sa, son, dans tout son potentiel puisse s'exprimer.
Et c'est pas si compliqué que ça, parce qu'on s'en fait un monde, on s'imagine, comme on entend parler de méditation, de pleine conscience depuis des années, on imagine que voilà, si je fais pas mes 10 minutes ou mon heure de méditation tous les jours, je n'arriverai pas à cet état-là, mais c'est, ça peut être beaucoup plus rapide que ça. Simplement regarder un papillon voler, et c'est tout. Juste le papillon qui vole et faire ça un peu tous les jours sans avoir l'impression d'être débile mentale parce qu'on retombe en enfant, parce qu'on fait « Oh, t'as vu les jolis papillons ?» Oui, c'est vrai. Mais non, parce que c'est cet instant-là où soi-même à l'intérieur, on est là « Oh, il est trop beau ce papillon !» Et bien, dans cet instant-là, il y a cette présence-là.
On sait même que neurologiquement, dans cet instant-là, peuvent apparaître de nouvelles connexions entre les neurones, de nouveaux synapses. Et c'est organique, c'est biologique, ça va jusque-là.
Donc, plus on va ralentir et s'émerveiller, et plus on va ralentir la dégénérescence soi-disant programmée de notre cerveau, qui est une, on le sait maintenant, que c'est absolument pas vrai, les seuls neurones qui disparaissent dans le cerveau, c'est ceux qui ne sont pas utilisés. Sinon, ça se refabrique jusqu'à la fin des temps. Ça ne s'arrête jamais.
Et les nouvelles connexions se font constamment.
Oui. Et elles se font d'autant plus qu'on ralentit et qu'on s'émerveille et qu'on... Ce que tu disais?
Je cite Richard Moss, ce médecin américain qui a beaucoup travaillé avec des personnes souffrant d'anxiété. Et les personnes lui disaient « j'ai pas le temps de méditer, j'ai pas le temps, j'ai une journée de fou, etc. » Et il leur répondait « quand j'écoute une autre personne, quand je l'écoute vraiment, je médite. »
Oui.
Quelle phrase magnifique! Parce que je me rends compte tout à coup que je ne suis plus en train de l'écouter. Oh! Je ramène l'attention sur la relation. Si je suis incapable de l'écouter, je le dis. Pour le moment... malheureusement, je ne peux pas vous offrir toute l'attention que vous méritez à mes yeux. C'est une phrase que je prononce. Je ne peux pas t'offrir toute l'attention que tu mérites à mes yeux maintenant. Ce sera dans 5 minutes, 10 minutes. Mais autrement, je vais simplement me rendre compte qu'il y a des jugements sur ce que l'autre dit, ou sur ce que moi je suis en train d'éprouver, etc., par rapport au fait que l'autre a réussi quelque chose que je n'ai pas réussi, ou n'importe quoi, et puis tout à coup, des jugements sur soi-même. Il y a observation de ça, je pèse chaque mot. Il y a observation de ça pour rentrer dans la présence. Et ça, c'est découvrir où est l'attention, là, la danse de l'attention. Et la méditation, c'est ça. La méditation, c'est observer la danse de l'attention, là. Et ça se fait, comme disait Chinatan, en lavant la vaisselle, ça se fait en attachant ses chaussures, ça se fait au moment où l'irritation apparaît dans mon corps parce que quelqu'un qui a dit quelque chose qui menace une croyance que j'avais ou une opinion que j'avais, et l'irritation apparaît. J'observe cette irritation-là. Ça, c'est méditer. C'est pas juste être assis sur le coussin en position de lotus. C'est quand j'ai eu la chance un jour d'aller au Népal, il y avait un groupe de travail, il y avait un moine qui disait « méditer dans l'action ». Donc, ralentir dans l'action. Ralentir au moment où l'irritation apparaît pour l'observer. Observer que les mots qui traversent la tête ont pris la forme de jugement sur soi, sur l'autre, et qu'il y a attachement à une opinion qui se sent menacée parce qu'elle a pris une forme identitaire, cette opinion-là, alors que nous ne sommes pas du tout une opinion. Heureusement d'ailleurs, j'ai changé d'opinion souvent dans ma vie et je ne suis pas disparu, et heureusement...
Oh, ah bon?
Non, mais c'est tellement énorme, tu sais, une idée, on s'y accroche comme si c'était nous-mêmes, puis on la défend à coups de mots, puis parfois il y a des gens qui vont la défendre même physiquement, ça va très loin au niveau même de groupe, etc., j'ai envie de dire de nation, ça va jusque-là maintenant. Alors donc, tout ça requiert qu'à la base, il y ait eu cette observation qui évidemment dépend du ralentissement et du temps d'arrêt. Sinon, on passe à côté.
Et s'arrêter ou ralentir, ça n'est pas ne rien faire, parce qu'il y a beaucoup de gens anxieux justement qui ont une peur panique du vide. Et donc, qui meuble ce vide sans arrêt, c'est simplement occuper le temps et l'espace autrement, avec des toutes petites variations. Et c'est en faisant ça que l'anxiété, petit à petit, elle va disparaître. Parce que plus on est présent, moins on est anxieux. Je parle d'expérience, là, pour le coup.
Mais c'est tellement...
Je reviens de loin, hein, côté anxiété, crise de panique, ça, j'ai eu ma bonne dose pendant très longtemps. Et j'ai bien vu comment ça a disparu petit à petit.
Tu sais, pour moi, c'est pareil. Si j'ai travaillé sur le stress, sur l'anxiété toute la vie, c'est parce que quelqu'un a dit, si tu veux apprendre quelque chose, enseigne-le. Alors, j'ai travaillé là pour être capable de l'enseigner, donc, inévitablement. Mais c'est tellement fondamental ce que tu viens de dire par rapport au fait que ralentir, ce n'est pas nécessairement devenir un mollusque, là. Au contraire, ça n'a rien à voir avec ça, parce qu'il ne peut y avoir créativité s'il n'y a pas eu ralentissement. Parce que si je suis rempli de jugements dans ma tête à propos de ce que j'essaie de créer, je ne suis pas en train de créer. Donc, ce qui peut mener à une action qui permet de résoudre un problème, qui permet de créer une œuvre d'art, qui permet de nommer quelque chose d'important à l'intérieur d'un conflit, etc. Tout ça requiert un ralentissement. Tout ça requiert un ralentissement. Je ferme. Tout ça requiert un ralentissement.
Ah ben, on t'entend plus là. Ah si, c'est bon. Ah non, t'entends plus.
Excuse-moi, j'avais pas fermé mon téléphone. Alors, il arrête.
Il n'a pas appris à ralentir, lui.
J'ai ralenti, j'ai fermé. Alors, tout ça, c'est, pardonnez-moi, mais c'est tellement, tellement important parce qu'on ne se transforme pas du tout en mollusque. Au contraire. Puis en plus, je pense qu'il y a beaucoup de vie dans les mollusques en passant. C'est vrai. C'est une expression de comparaison qui n'est même pas valable. Mais non, toute forme d'utilisation de son intelligence pour trouver des solutions, pour nommer des émotions qui nous habitent, de faire part de besoins, tout ça requiert qu'il y ait eu ralentissement pour identifier ces besoins-là, pour observer les émotions qui sont apparues et les nommer. Tout ça requiert un ralentissement. Sinon, on passe à côté parce que c'est l'explosion, c'est la confrontation qui conduit nulle part tant qu'il n'y a pas eu temps d'arrêt, tant qu'il n'y a pas eu pause pour être capable d'entrer dans ce que Jacques Salomé appelait l'espace relationnel. Pour entrer dans l'espace relationnel, il a fallu qu'il y ait un ralentissement, il a fallu qu'il y ait un temps d'arrêt pour être capable de nommer correctement ce qui nous habitait. Autrement, ça, c'est impossible. Donc, c'est tout le contraire. Il ne se passe pas rien quand on ralentit. La vie prend toute sa place, au complet. totalement. Alors, donc, ça aussi, c'est une croyance qu'il faut laisser se dissoudre tranquillement, qu'on devient une espèce de, je ne sais pas quoi, de mollusque.
et d'ailleurs, ce ralentissement n'est pas incompatible avec une vie ou des responsabilités nombreuses, au contraire.
Au contraire.
Au contraire, on sera beaucoup plus efficace si on sait vivre ce ralentissement que si on subit ce remplissage permanent en le faisant nous-mêmes, enfin en l'accélérant nous-mêmes. Parce que là, du coup, on apprend à bien gérer ce qui rentre et ce qui sort. Et du coup, ça démultiplie complètement notre, entre guillemets, gros mot, productivité. Mais dans le sens premier, ce qu'on produit, ce qu'on crée, notre créativité, ce qui va sortir de nous, comme c'est beaucoup plus fluide, parce qu'il n'y a plus cette pression auto. Du coup, voilà, c'est parce qu'il y a à chaque fois ces petits. Non, je ne dis pas de bêtises là.
Pas du tout. L'hyperactivité conduit au jugement sur soi, au jugement sur l'autre, etc. n'a aucune efficacité. Aucune. Quand je suis en train de me dire « je suis nul », je ne suis pas efficace. Quand je suis en train de dire que l'autre est nul, on n'est pas efficace. On n'est pas en train d'essayer de trouver une solution. Donc, s'il n'y a pas eu ce ralentissement-là, on entre dans l'inefficacité. Puis la productivité, c'est un mot qui a été galvaudé, là, mais quelqu'un qui crée, un peintre qui produit, un musicien qui compose, qui est productif.
Est un menuisier, n'importe quoi, enfin n'importe qui fait n'importe quoi.
Quelqu'un qui danse, tout ce qu'on peut faire qui de l'ordre de la créativité, de la solution de problèmes, etc., requiert qu'il y ait cette présence. Autrement, c'est de l'inefficacité, point à la ligne. On ne peut pas créer un tableau si on n'est pas présent. On ne peut pas résoudre en équipe. On ne peut pas travailler en équipe si on n'est pas à l'écoute les uns et les unes des autres ou à l'écoute de ses propres jugements pendant que quelqu'un d'autre parle et qu'on s'enferme dans le cocon de son idée, de son opinion qu'on voudrait défendre, qu'on va vouloir défendre à tout prix par la suite, simplement sans l'avoir regardé avec un certain recul pour se demander si elle ne pourrait pas être enrichie. Plutôt que d'y tenir comme si notre survie en dépendait, encore une fois. Alors, tout ça est de l'ordre de la responsabilité aussi sur sa propre existence, parce que je reprends le mot que tu viens d'utiliser. Je ne peux pas être responsable au niveau des relations que je veux entretenir, enrichir, dans sa vie personnelle, avec soi-même, entre guillemets, en sortant de la dualité, là, parce que tout à l'heure, on a parlé de cette dualité, où, non, mais simplement la vie qui circule en nous, dans les relations qu'on a au travail, dans les relations qu'on a avec nos enfants, tout ça, là, la responsabilité liée à ces relations-là requiert qu'il y ait eu cette observation et donc, encore une fois, ce ralentissement pour entrer dans toute cette présence qui est au cœur de tout ça. Autrement, c'est l'inefficacité. C'est le contraire de ce qu'on va associer au fait qu'on est hyperactif. La créativité, là, la créativité de quelqu'un qui écrit, en tout cas, j'ai jamais eu l'impression de pouvoir écrire dans une activité mentale qui était liée au jugement que je porte sur mes compétences, mes ressources, etc., etc. J'ai l'impression d'être productif, reprenons le mot, si toute mon attention est sur la phrase qui est écrite, la clarté de la phrase qui est écrite. Est-ce que c'est suffisamment clair? Est-ce que c'est trop lourd? Et ça, cette question-là requiert la présence. Et non pas un jugement sur soi ou une appréhension des jugements que l'autre pourrait avoir sur ce que je suis en train de d'écrire, de dessiner, peu importe, etc.
Un petit mot pour la fin, pour souhaiter une bonne année aussi, parce que les 10 ans d'Happiness, c'est le 10 janvier 2024. Donc oui, On enregistre ces vidéos avant. On ne les fait pas toutes, mais donc du coup, on peut se projeter sur 2024. Qu'est-ce que tu souhaiterais à tous ceux qui nous écoutent et toutes celles qui nous écoutent?
Moi, je nous souhaite à tous et à toutes sur cette planète d'entrer dans de plus en plus de présence. Et ça n'a rien d'ésotérique. C'est ce que nous sommes fondamentalement. Il y a des expressions, on essaie de trouver des expressions, là, cette conscience là, pure là, qui permet d'être connecté. Là. Donc, je nous souhaite à tous et toutes, parce que c'est aussi lié au bien-être. C'est aussi lié à ce qu'on appelle le bonheur. C'est dans cette présence-là que ça vit.
Alors, et d'ailleurs, on n'en parle même plus quand ça vit.
Non. Non, parce que, comme tu disais tout à l'heure, on le sent. Cette tranquillité, cet apaisement qui fait qu'on est relié, qu'on savoure, qu'on aime, qu'on crée, qu'on apprend.
Ça n'a rien à voir avec un monde de bisounours.
Non, du tout.
Ça n'empêche pas des souffrances, ça n'empêche pas des choses difficiles d'arriver, ça n'empêche rien du tout. Simplement, c'est vécu différemment. Et c'est digéré différemment.
Et même les souffrances sont observées.
Oui.
Accueillies. Les larmes, quand il y a de la tristesse, parce que c'est une réalité, on perd un être cher, on entre dans la tristesse. Et les larmes sont... La présence, là, ça implique que les larmes sont ressenties quand elles coulent sur les joues. Là. Ça implique ça, que ce qui est ressenti dans le corps, c'est observé aussi. Ça permet même d'entrer dans la compassion à l'égard de l'autre, à l'égard de soi-même. Et ça, la compassion, ça n'a rien de bisounours. C'est d'être connecté à ce que l'autre vit, qui peut nous permettre justement à tour de rôle de s'entraider, de se soutenir pour traverser des moments difficiles. C'est pas bisounours, ça. C'est ce qui a fait que l'espèce humaine a survécu. Point à la ligne. Si nous avons survécu, je me souviens pas du nom de l'auteur qui disait ça, c'est parce que nous sommes occupés des plus vulnérables. Ça nous a permis de bâtir un sentiment de communauté, d'appartenance à une communauté. C'est pas bisounours du tout. C'est lié à la survie de l'espèce humaine. C'est lié à la survie de l'environnement maintenant, de la planète au complet. Alors, on n'est pas dans le bisounours, on est dans le fondamental, le plus fondamental du fondamental. Alors, voilà.
Merci beaucoup, Serge.
Merci.
Et puis, vous aurez le plaisir de lire une très belle chronique de Serge dans Happiness numéro 79. Qui sort le 10 janvier 2024, donc après le numéro qu'on est en train de vous terminer là. Donc, ça vous permet de situer à peu près quand est-ce qu'on enregistre. On est au mois de novembre. On ne vous en dira pas plus. On vous souhaite une très belle soirée. Merci Serge, à bientôt.
Merci Nathalie, merci à toutes les personnes présentes qui écoutent cette rencontre avec toi. Merci beaucoup.